19h sur France Inter. Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir à tous. L'ombre de l'extrême droite sur l'attaque d'Halleux en Allemagne, attaque au fusil d'assaut et à la grenade contre une synagogue et un restaurant turc. Il y a au moins 2 morts. Angela Merkel dénonce un attentat. Nous sommes sur place dès le début du journal. Direction aussi la Turquie après le début de l'offensive d'Erdogan dans le nord de la Syrie. Les F-16 frappent les forces kurdes et touchent aussi les civils. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit demain en urgence. Au sommaire également ce soir, le Nobel de chimie aux inventeurs des batteries au lithium-ion, les alertes de la revue Prescrire sur le Mediator dès les années 80, Greta Thunberg dans un morceau du DJ Fatboy Slim, vous verrez cela, et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien au téléphone sonne, laissez parler vos ados d'un sujet qui vous inquiète, d'un sujet tabou, le porno. Nous sommes en partenariat avec France 2 qui consacre sa soirée au porno et à nos ados. Nous avons décidé de les entendre, ces ados, quelques adultes aussi bien sûr. Comment ils en parlent entre eux? Est-ce qu'ils s'en cache? Est-ce que ça les choque? Est-ce que leur entrée dans la sexualité leur semble bouleversée? La parole aux ados donc ce soir au 01 45 24 7000.
France Inter.
Le terrorisme d'extrême droite a-t-il de nouveau frappé en Allemagne comme au début des années 2000, une dizaine d'immigrés tués par un groupuscule néo-nazi, ou plus récemment un élu pro-migrant du parti de la chancelière assassiné en Hesse? Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais le parquet antiterroriste est saisi depuis ce midi, depuis la tentative d'attaque donc à Halleux, à environ 170 km au sud-ouest de Berlin, pour laquelle Angela Merkel parle ce soir d'attentat. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Sébastien.
Vous êtes sur les lieux, Ludovic. Attentat d'abord contre une synagogue le jour de la fête juive de Yom Kippour.
Oui, cette synagogue où se trouvaient à l'intérieur environ 70 personnes qui viennent seulement il y a 1h30 environ d'être évacuées à bord de bus, plus de 5 heures après cet assaut pendant lesquelles elles ont dû rester confinées. Cette synagogue se trouve à l'intérieur d'une cour entourée par un mur en briques et protégée par une grande porte qui a résisté à l'assaut et aux coups de feu et même à des explosifs. J'ai pu voir le corps étendu d'une des 2 victimes recouvertes d'une bâche bleue sur le sol, sur la route, devant cette porte. Il y a dans ce quartier, il habite ce quartier, cet homme Dick.
Je suis vraiment surpris qu'une telle chose puisse se produire dans ma ville paisible. À Berlin, Hambourg, Francfort, Cologne, des grosses villes, je comprends. Mais une histoire pareille à Halle, c'est à peine croyable.
L'assaillant a ensuite pris la fuite à bord d'une voiture apparemment louée il y a 2 jours pour commettre ce crime. Il s'agirait d'un citoyen allemand originaire du land de Thuringe, pas très loin de Halle, un peu plus au sud. Ce land connu pour sa scène d'extrême droite et ses groupuscules néo-nazis très actifs. L'homme portait un casque, des vêtements kaki, une ceinture de munitions. On le voit très calme, tiré en pleine rue avec son fusil d'assaut, filmé par un habitant depuis sa fenêtre. Une vidéo qui a largement circulé sur les réseaux sociaux. L'homme s'en est pris ensuite à un restaurant turc avec un jet de grenade contre le fast-food et des tirs aussi à l'intérieur de l'établissement. La situation a été confuse pendant un long moment. Sébastien, on parlait d'autres coups de feu entendus à une quinzaine de kilomètres d'ici, mais pour l'heure toujours aucune précision sur ces faits. Il était aussi question d'un autre assaillant, mais en réalité l'homme aurait agi seul. Des recherches ont été menées longuement tout l'après-midi dans un bloc d'immeuble tout près d'où je me trouve, mais elles ont cessé il y a quelques dizaines de minutes et la police a levé l'alerte et autorisé les habitants de Halle à retourner dans les rues.
Ludovic Piétenu, merci pour ces précisions en direct de Halle en Allemagne. Bilan donc de cette attaque, au moins 2 morts pour l'instant. L'autre actualité ce soir, c'est donc le début de l'offensive turque dans le nord de la Syrie contre la milice kurde YPG soutenue par les Occidentaux mais qu'Ankara considère comme terroriste parce qu'elle est liée au PKK, au parti des travailleurs du Kurdistan. Les premières explosions en début d'après-midi et un tweet du président turc Erdogan au même moment. L'opération Source de paix a débuté, écrit-il. Curieux de baptiser une guerre avec le mot paix. Bonsoir, Anand Lower.
Bonsoir.
Vous êtes à Istanbul, Anne, où le président turc a donc mis ses menaces à exécution.
En effet, à 16h heure locale, soit 15h de Paris, le président turc a mis ses menaces à exécution lorsque des avions de chasse ont commencé à pilonner la région de Ras Al-Ain sur une profondeur d'au moins 30 km en territoire syrien. Peu après, des obus bombardaient Tal Abyad, 120 km plus à l'ouest. Ces 2 localités du nord-est syrien sont en fait considérées comme les limites probables de la première étape de l'opération turque. Un peu plus tôt dans l'après-midi, on a aussi vu l'armée turque retirer des blocs du mur de béton érigé ces dernières années à la frontière turco-syrienne. Prélude à l'entrée en Syrie, dans un deuxième temps, de chars et donc de soldats turcs. Mais pas seulement, car comme lors des deux précédentes incursions de l'armée turque en Syrie, elle s'appuie au sol sur des supplétifs issus de l'opposition syrienne. La presse locale avance le chiffre invérifiable de près de 14 000 hommes prêts à franchir la frontière. Quant aux forces kurdes, leur riposte n'a pas tardé. Les médias locaux rapportent la chute d'au moins 6 roquettes sur Nusaybin et de 2 obus de mortier sur Ceylanpınar, deux villes turques situées à la frontière, a priori sans faire de victimes.
Merci Anne Andlauer en direct d'Istanbul. L'opération en tout cas suscite un tollé de réactions de Washington à Paris. La France condamne fermement et saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies avec l'Allemagne et le Royaume-Uni. La réunion a lieu demain en urgence. Berlin souligne que l'offensive turque risque de provoquer une résurgence du groupe État islamique. À Bruxelles, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker exige l'arrêt de l'opération militaire. Et aux États-Unis, où Trump avait finalement promis de ne pas laisser tomber les alliés kurdes, le Congrès fera payer très cher son offensive à la Turquie. En tout cas, c'est ce que promet le sénateur républicain Lindsey Graham. Les forces kurdes font donc état déjà de victimes civiles des frappes turques, alors que plusieurs milliers de personnes fuient Ras Al Ain, on l'a entendu, dans le nord-est syrien, vers la province d'Assaké, tenue par les forces démocratiques syriennes. Et à Paris, voici le désespoir de Cemile Renklike, représentante du Conseil démocratique des organisations kurdes de France.
C'est la colère, c'est la tristesse du peuple kurde qui s'est vu une fois de plus abandonné par les forces internationales et notamment les Nations Unies. Nous avons quand même perdu 11 000 des nôtres pendant la guerre contre Daesh. Nous faisions partie de la coalition internationale qui avait le but d'éradiquer l'organisation de l'État islamique. Ça fait des années que nous sommes en guerre avec cette organisation. Qu'on nous laisse tomber face à la Turquie sous prétexte qu'elle veut sécuriser ses frontières est inacceptable par le peuple kurde. Si c'était réellement l'intention de la Turquie de sécuriser ses frontières, selon la loi internationale, elle aurait dû faire appel au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle aurait pu faire appel à l'OTAN dont elle est membre. Ils ont le but d'éradiquer les Kurdes de cette région. Donc il fallait agir avant que ça soit trop tard. Les déclarations des Nations Unies, certes, qui s'inquiétaient pour les réfugiés, n'ont pas été au-delà de ça. Il n'y a pas en acte, il n'y a rien qui a été fait.
Voilà l'une des porte-parole des Kurdes de France avec Nicolas Taillard. J'ajoute à l'instant ce message de Donald Trump. L'offensive turque en Syrie est une mauvaise idée. Il répète donc ce qu'il avait déjà dit ces derniers jours. Merci à Cemile Renklike pour ce commentaire sur les Kurdes de France. À l'étranger encore, Nabil Karoui devrait pouvoir participer libre au second tour de l'élection présidentielle dimanche en Tunisie. Il est finaliste mais soupçonné de blanchiment d'argent et en prison depuis fin août. Bonsoir Maureen Mercier, vous êtes à Tunis?
Oui, bonsoir.
La demande de libération de l'homme d'affaires a finalement été acceptée, Maureen.
Oui, c'est un coup de théâtre. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui avait entraîné l'incarcération de Nabil Karoui fin août. Cette nouvelle surprend d'autant plus que la justice avait refusé à plusieurs reprises de le libérer pour qu'il puisse faire campagne. Nabil Karoui serait même déjà sorti de prison, selon les dernières informations, après donc un mois et demi d'incarcération. Hier, il demandait un report de l'élection au nom du principe d'égalité des chances entre les deux finalistes. Nabil Karoui n'a pas pu faire campagne personnellement du fond de la prison, mais sa télévision Nesma TV s'en est chargée alors qu'elle n'a même pas l'autorisation d'émettre. Malgré cela, son adversaire Kais Saied, le constitutionnaliste arrivé en tête au premier tour, avait lui suspendu sa campagne au nom justement de cette égalité des chances. Qui de Kais Saied, le constitutionnaliste sans parti, ou de Nabil Karoui, patron de télévision qu'on surnomme ici souvent le Berlusconi tunisien, deviendra président? Verdict dimanche.
Maureen Mercier en direct de Tunis. Merci, on suivra effectivement ce second tour dimanche. Et puis j'ajoute cette pression qui s'accentue encore un peu plus sur Alexei Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine en Russie, en l'occurrence sur son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption. Elle est désormais classée comme agent de l'étranger par le ministère russe de la justice.
Il est 19h09 sur France Inter. Sébastien, elles ont révolutionné nos vies et elles sont partout.
Dans nos portables, nos ordinateurs, les véhicules électriques, les batteries au lithium-ion léger, chaleur rechargeable, puissante, eh bien leurs pères reçoivent le prix Nobel de chimie aujourd'hui. Le Britannique Stanley Whittingham qui les a inventés, l'Américain John Goodenough qui les a ensuite développés, 97 ans ce monsieur, plus vieux lauréat nobelisé de l'histoire, et le Japonais Akira Yoshino qui a créé, lui, la première batterie commerciale. Trois chercheurs, Sophie Becherel, chacun dans son labo pour plus de 40 ans de progrès.
Dans les années 70, en raison du choc pétrolier, Stanley Whittingham cherche une alternative aux énergies fossiles. Il travaille alors sur les supraconducteurs et découvre un matériau extrêmement riche en énergie, le sulfure de titane. Il en fait l'électrode positive d'une batterie, l'électrode négative étant elle constituée de lithium sous forme métallique. Et pour le transport des ions, dans son nouveau concept de batterie, il utilise un liquide sans eau. Problème, ces batteries explosent au moment de la recharge. C'est le Japonais, M. Yoshino, qui va lever cet obstacle et proposer un matériau stable pour l'électrode négative, du carbone graphite. Quant à John Goodenough, il va booster la batterie en doublant son potentiel. Il a recours à un nouveau matériau, l'oxyde de cobalt oxygène, et le potentiel des batteries, jusque-là limité à 1,5 V, va atteindre 4 volts. Résultat, partout désormais, on a ces batteries lithium-ion rechargeables un nombre considérable de fois. Voilà un Nobel qui ravit Patrice Simon, spécialiste du stockage de l'énergie au CNRS.
Ce qui est vraiment fascinant dans ce prix Nobel, c'est que ça touche tout le monde. Encore une fois, on n'aurait pas de smartphone aujourd'hui si on n'avait pas de batterie lithium-ion, on n'aurait pas de PC. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 20 ans, les premiers PC portables qui pesaient 10 kilos parce qu'ils étaient épais, parce qu'il fallait beaucoup de batteries, parce que les batteries à l'époque étaient du nickel métallisure, elles avaient 3-4 fois moins de densité d'énergie. Donc il fallait 3 fois plus de masse, 3 fois plus de volume. Et tout ça, ça a eu un impact sur la vie de 99% de la population mondiale.
Les batteries lithium-ion n'ont à ce jour pas de concurrente. Les chimistes n'en voient pas avant des décennies.
Et demain, deux Nobel de littérature pour le prix d'un. La semaine des Nobel, c'est aussi sur franceinter.fr. Là aussi, les travaux sont toujours plus longs, toujours plus chers, ceux de l'EPR. EDF revoit la facture totale de la centrale nucléaire de Flamanville une nouvelle fois à la hausse, 12 milliards 400 millions d'euros. C'est 1,5 milliard de plus que la dernière addition. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Fabien, pourquoi cette rallonge?
Parce que les nouveaux travaux qui s'annoncent seront coûteux. Il va falloir faire intervenir des robots pilotés à distance pour réaliser des soudures extrêmement précises à l'intérieur des tuyauteries, dans des endroits difficiles d'accès, au niveau des tuyaux qui relient les générateurs de vapeur à la turbine qui produit l'électricité, qui produira l'électricité, puisque le coût en argent se double d'un coût en temps. Si l'autorité de sûreté nucléaire valide d'ici l'année prochaine les travaux envisagés par EDF, l'intervention s'étalera sur 2021-2022. La mise en service de l'EPR est-elle fixée à fin 2022? 10 ans de retard donc sur le calendrier initial, et encore d'autres scénarios auraient pu entraîner des retards encore plus importants s'il avait fallu détruire l'enceinte du réacteur pour le reconstruire par exemple. Un retard et des surcoûts, rien de nouveau pour l'EPR, mais celui-là tombe mal au moment où EDF se lance dans une vaste et laborieuse réorganisation interne. Il est notamment question de scinder l'entreprise en deux en créant une entité centrée précisément sur le nucléaire, projet lui aussi reporté pour cause de négociations à venir avec la future Commission européenne.
1,5 milliard d'euros de plus donc pour réparer les soudures défectueuses de l'EPR. Merci Fabien Cazot.
La clé USB de Michael Harpon toujours en cours d'analyse.
Et pour l'instant, les enquêteurs n'y ont pas remarqué de transfert illicite de données. La clé a été retrouvée dans le bureau du tueur de la préfecture de police. Le tueur auquel un activiste politique voulait rendre hommage demain à Gonesse où il habitait. Christophe Castaner dénonçait une infamie. Le rassemblement est interdit, comme le confirme la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, au micro de Laurence Perron.
Il s'agissait d'examiner, comme à chaque fois, en détail ce qu'était cette manifestation. Donc c'est normal que les services de l'État, en particulier le préfet et évidemment le ministre de l'Intérieur, prennent un peu de temps pour examiner les choses précisément. L'interdiction de manifester est évidemment prise sur le fondement du risque de trouble à l'ordre public. Nous savons l'émotion qu'a suscité dans notre pays les assassinats qui ont été perpétrés par Michael Harpon. Et de toute évidence, cette manifestation n'était pas dans le contexte que nous connaissons de nature à assurer l'ordre public. Et donc, le choix qui a été fait, c'est une décision à la fois politique et républicaine qui a été prise par le ministre de l'Intérieur, soutenue évidemment par l'ensemble du gouvernement.
La politique, c'est aussi la suite du débat sur l'immigration en ce moment au Sénat, après l'Assemblée lundi. Bonsoir Cécilia Arbona.
Bonsoir Sébastien.
Le Sénat où les Républicains sont majoritaires et où Édouard Philippe est beaucoup plus ferme qu'au Palais Bourbon vis-à-vis des immigrés.
moins accueillir et mieux accueillir. C'est effectivement l'engagement d'Édouard Philippe. Pour y parvenir, le Premier ministre exige des arrivants deux choses non négociables, maîtriser parfaitement le français et respecter les valeurs de la République.
Tous les étrangers qui arrivent en France, mesdames et messieurs, et vous le savez parfaitement, ne sont pas comme le jeune Albert Cohen qui, débarquant de Corfou à Marseille, vouait un véritable culte à la France. Alors je n'en demande pas tant à ceux qui arrivent aujourd'hui, mais en revanche, nous n'avons pas d'autre choix que de leur demander d'adhérer aux valeurs qui ont fait la France. Nous devons être inflexibles sur cette exigence.
Notre politique migratoire est un désastre, s'emporte le seul élu du Rassemblement national, Stéphane Ravier.
Je vous demande de vous excuser. Excusez-vous en instaurant la préférence nationale dans tous les domaines, en mettant en place des quotas, non pas d'immigration, mais des quotas d'expulsion.
Les dernières banderilles viennent d'être plantées sans colère, mais avec maîtrise, par le sénateur LR des Républicains, donc Bruno Retailleau. Il vise juste et pointe les divisions de la majorité sur l'aide médicale d'État.
Vous avez dit non pour la transformation de l'AME. J'ai compris que le président de la République avait dit plutôt oui, et j'ai entendu depuis Madame Buzyn dire plutôt non. Donc aujourd'hui, c'est ni oui ni non, bien au contraire. On ne sait plus où on en est. En réalité, je pense que vous n'avez pas la majorité, monsieur le Premier ministre, pour une politique de fermeté.
Bruno Retailleau qui conclut par une supplique. Agissez, monsieur le Premier ministre, agissez, sinon vous ajouterez de la défiance à la désespérance.
Cécilia Arbona en direct du Sénat avec Raymond Albouy. Merci à tous les deux. La politique encore avec cette question. À Bruxelles, Sylvie Goulard apte ou pas à devenir commissaire européenne? La candidate proposée par l'Élysée ne le sait toujours pas. Elle a de nouveau rendez-vous demain matin devant les eurodéputés pour une seconde audition où elle doit convaincre de son intégrité.
Le procès du Mediator se poursuit à Paris.
9e journée d'audience dans l'affaire de l'antidiabétique, très souvent prescrit comme coupe-faim et commercialisé de 76 à 2009. Avec à la barre aujourd'hui le fondateur de la revue Prescrire. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Sébastien.
Qui avait écrit sur le Mediator dès les années 70.
Oui, Gilles Bardelais a 72 ans. Je suis un vieux gauchiste, dit-il à la barre, dans une déposition fleuve ponctuée de phrases assassines. Médecin, il a fondé avec sa femme pharmacienne, dans la foulée de mai 68, la revue Pratique, devenue ensuite Prescrire, première revue indépendante sur l'actualité du médicament. Et en effet, dès 77, il écrit que le Mediator n'a aucune utilité démontrée. Prescrire publiera ensuite des dizaines d'articles pour pointer l'inutilité, puis les dangers du Mediator. Invité à analyser les raisons du scandale, le médecin retraité y va à la sulfateuse. La méthode Servier, c'est la falsification ou le mensonge par omission. Les études cliniques, presque rien. Les essais, il n'y en a pas. C'est du marketing qui s'appuie sur l'imaginaire. Il rappelle comment Servier a déployé dans les années 80 de jeunes visiteuses médicales dans les cabinets des médecins. On n'avait jamais vu ça. L'agence du médicament, ventre mou, peureuse, n'est pas épargnée. Ils avaient pris l'habitude de négocier avec les laboratoires au lieu de s'occuper d'abord du malade, dit-il. Pourtant, selon Gilles Bardelais, l'information était là. Même si Servier fournit 1000 études, si on les lit avec un peu de jugeote, on s'en rend compte, dit-il, avant de tacler ses confrères qui ont prescrit le Mediator pendant 30 ans, les médecins irresponsables qui ne se forment pas, pardonnez-moi, mais ils méritent des coups de pied au cul.
Corinne Audouin, en direct du Palais de Justice de Paris. Le procès Mediator est prévu pour durer jusqu'à la fin avril 2020. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme va-t-il parvenir à collecter 13 milliards d'euros pour financer ses actions? Réponse demain à Lyon, où la réunion a lieu depuis aujourd'hui. Et alors que le sida connaît un recul en France, bonsoir Daniel Messager.
Bonsoir.
Près de 6200 personnes ont découvert leur séropositivité l'an dernier dans l'Hexagone. C'est 7% de moins par rapport à l'année précédente.
Et moins 7% est un chiffre significatif sur une année, alors que précédemment le nombre de contaminations demeurait stable. Une baisse qui s'explique d'abord par un nombre de dépistages plus important et par la mise en pratique de ce qu'on appelle le traitement comme prévention. Alors ça signifie qu'une personne dépistée qui se découvre séropositive peut être mise sous traitement tout de suite et sous traitement, elle n'est plus contaminante. Elle est toujours séropositive, mais grâce aux médicaments, la quantité de virus dans son organisme est trop faible pour contaminer. Le deuxième outil de prévention qui démontre son efficacité, c'est ce qu'on appelle la PrEP pour les personnes séronégatives et c'est ce que confirme le professeur François Dabis, c'est le directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida.
La prophylaxie pré-exposition, les médicaments que l'on donne aux personnes qui sont séronégatives, ceci a été introduit récemment dans l'arsenal de la prévention en France. C'est extrêmement efficace aussi, plus de 95% de réduction du risque de transmission. Nous n'en avons peut-être pas encore observé tous les effets, donc nous pouvons nous attendre à ce que dans les années à venir, la baisse des nouvelles contaminations continue.
Et en septembre, déjà, une baisse des contaminations avait été enregistrée à Paris de 16%, principalement chez les hommes gays ou bisexuels.
Daniel Messager, sur l'attaque d'Halleux dont nous parlions au début du journal, le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, parle ce soir d'une attaque antisémite probablement perpétrée par un sympathisant de la mouvance d'extrême droite. Déclaration donc à l'instant du ministre allemand de l'Intérieur. Enfin, voici le discours de Greta Thunberg aux Nations Unies, repris par le DJ anglais Fatboy Slim dans un remix de son tube Right Here, Right Now, où il utilise les mots de la militante suédoise pour le climat à la tribune de l'ONU. C'était le mois dernier et ça donne ça.
We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Right here, right now, right here, right now, right here, right now.
Fatboy Slim featuring Greta Thunberg. Mmh. C'est pas mal, c'est mieux que Céline Dion, non?
Écoutez, comme vous y allez, vous allez vous faire des ennemis.
À 18h
Oui, par exemple. C'est exactement ça. Merci beaucoup.
À demain.
Sébastien, et à demain. Nous, on reste ensemble, comme tous les soirs, bien sûr, avec le téléphone sonne, la météo d'abord.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Et Sébastien Léas, encore nuageux pour demain matin, ça ira mieux dans l'après-midi.
Oui, en début de journée, le ciel sera plutôt chargé à cause de grisailles au nord de la Loire, mais aussi de passages d'averses au nord de la Seine et sur le quart nord-est. Au fil des heures, les éclaircies vont devenir de plus en plus franches et le risque d'averses va se cantonner entre le Nord-Pas-de-Calais et les Vosges l'après-midi. Mais des nuages vont débarquer sur les côtes de la Manche. Une bande nuageuse va également s'infiltrer sur le centre-ouest entre la Vendée et la Gironde, débordant vers le centre-Val de Loire, l'Auvergne et la Bourgogne, et lâchant quelques gouttes. Au sud de la Garonne, les éclaircies du matin seront encore plus belles l'après-midi, se généralisant à toute l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Et puis autour de la Méditerranée, c'est le soleil qui vous attend demain. Mais le vent sera bien sensible et même violent sur le nord de la Corse avec des pointes à plus de 100 km par heure.
Et retour à des températures de saison alors?
Oui, dès demain, les maximales repartiront à la hausse. 15 degrés à Metz, 16 degrés à Mulhouse et Besançon, 18 degrés pour Paris, Cherbourg, Clermont-Ferrand et La Rochelle, 19 degrés à Nantes, Lorient et Albertville. On ira jusqu'à 21 degrés à Montauban et Arcachon, 23 degrés à Marseille et Ajaccio et 25 degrés du côté de Montpellier. Et ce n'est que le début de la hausse puisqu'on se dirige vers une fin de semaine très douce, voire chaude, puisqu'on attend des pointes à 25 degrés au nord de la Loire et même 30 degrés dans le sud-ouest dimanche.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.